Salut, ici Charles Lafortune. Bienvenue au Balado de la Voix. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va se promener dans les coulisses de la voix, en apprendre un peu plus sur ce qui se passe à l'arrière-scène. En fait, comment se vit la voix de l'intérieur? Présentement, on est dans les coulisses de la voix. Il y a beaucoup de circulation autour de moi, mais qui passe très loin parce que, oui, on est en COVID. Je vous parle présentement avec un masque dans le visage. Alors, je vais essayer le plus possible d'articuler. On a des bâtons de 2 mètres pour mesurer qu'on soit à la bonne distance. Aujourd'hui, je vais aller me tenir à 2 mètres de mon ami Pierre Lapointe, qui, au fil des ans, a beaucoup évolué, comme tout artiste, mais aussi comme coach à la voix. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas à propos de Pierre Lapointe. On y va? Okay. Allô, Pierre! Comment vas-tu?
Bonjour, Charles. Comment tu vas?
Attends, je vais très bien.
Je suis content de te voir.
Est-ce que tu avais beaucoup d'appréhension de revenir en studio, de...
À cause de la COVID,
tu disais ça, ça va être moins, ça va être... Ou au contraire, tu avais cette...
Je le sais pas trop. Je pense que j'ai pas encore tout compris ce qui se passe depuis février dernier. Je pense que j'étais encore à assimiler les données. Tu sais, le métier est tellement bouleversé. Ouais. La seule chose que je sais de source sûre, c'est que je suis extrêmement heureux de travailler.
Ouais.
Puis de savoir que la télé peut encore exister, parce que la scène, ça n'existe plus. Là. On va se le dire franchement, là, devant 250 personnes, j'ai fait les calculs pour ma prochaine tournée et c'est absolument impossible. Mais tu sais, moi, ça, fait que je me suis pas trop posé la question. Je me suis juste dit, c'est le fun, on peut terminer, parce que je trouvais ça extrêmement souffrant pour les participants.
Ouais.
D'être placé en suspens comme ça.
Alors,
sans
quelqu'un est interrompu.
Oui, puis tu sais, de devoir garder aussi le secret pour ceux qui ont été mis au champ de bataille pendant tous ces mois-là, se faire dire, ah, c'est le fun, tu fais la voix, de ne pas pouvoir dire « Ah, ben je serai pas là » ou « Oui, c'est moi qui reste dans l'équipe ». Je trouvais ça compliqué, mais bon, on n'est pas une situation compliquée près avec la COVID. Et puis, ben là, je suis juste content de travailler puis de refaire de la musique, puis je vais chanter un peu aussi, ça fait plaisir.
Dis-moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ce qui est devenu ton rapport avec la voix. Tu sais, de ta première fois que tu t'es assis dans cette chaise-là, que tu es arrivé dans un truc comme ça, à aujourd'hui. À chaque fois qu'un coach s'assoit dans le fauteuil, au début, il est beaucoup centré sur lui-même ou elle-même, sur ce qu'elle, elle a à donner. Puis, à un moment donné, il y a un déclic, puis moi, je trouve ça avec toi maintenant, que tu es vraiment beaucoup dans l'autre. Tu es vraiment énormément dans ce que tu as devant toi et non plus dans ce que tu as l'air à regarder quelqu'un d'autre. T'sais.
Ben ça se peut. Ça se peut. Faudrait que je regarde des vieux épisodes de la voix de tes années. La première année où j'étais là. Je pense que le plaisir de cette expérience-là, c'est aussi de rencontrer des gens.
Ouais.
Là, c'est encore plus vrai. On dirait que c'était pas prévu que je sois là cette année.
Ouais.
On va se le rappeler.
Ben, on le sait, oui.
Une triste aventure qui a fait que je me suis retrouvé là, qui est devenue une
Et je voudrais te remercier parce que moi, j'étais tellement rassuré que tu arrives là. Ouais. J'étais comme, oh mon Dieu, il est capable de piloter le F-18. Oui. Il sait très bien où sont toutes les commandes. Mais ça va le bien aller.
Pour moi, c'est devenu un imprévu très, très joyeux parce que j'étais très heureux de reprendre mon rôle de coach. Mais je pense que ça a ajouté à mon détachement par rapport à tout et à mon plaisir de découvrir l'autre, justement. Après les champs de bataille, je trouve ça très, très, très difficile de voir des gens partir.
Ouais.
Et puis, j'ai ouï dire par des participants de mon équipe qui avaient un verre qui se prenait. Il y avait une tempête de neige ce soir-là. J'ai pris ma voiture. Je suis arrivé à genre 1h30 au bar. Puis je suis allé prendre un verre avec les participants. Il y avait des gens de mon équipe, mais il y avait des gens aussi des autres équipes. Des gens qui restaient dans la course, puis il y en a d'autres qui venaient d'apprendre qu'ils partaient. Puis ça m'a fait énormément de bien d'échanger avec eux, puis de juste me retrouver là où je suis d'habitude, c'est-à-dire un gars de la gang avec d'autres musiciens, d'autres chanteurs, puis pas être dans le rôle du coach qui doit trancher, puis à qui tout le monde... Parce que je le fais souvent avec les participants, ils vont me poser des questions, je vais dire, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te référer à toi.
Mm.
Comment toi, tu te sens? Naturellement, tu vas trouver tes réponses. Puis ça, c'est... j'essaie de coacher comme ça parce que je veux que les gens soient le plus indépendants possible, puis je veux que les gens, après cette expérience-là, se fassent confiance. Parce que s'ils sont là, il y a des raisons, c'est qu'ils ont du talent.
Ouais.
Et puis même si des fois c'est maladroit ou ils sont pas encore rendus, encore arrivés à la maturité que quelqu'un a quand ça fait longtemps qu'on fait ce métier-là, ils ont un bon instinct. Donc c'est ce que je stimule. Donc quand je me suis retrouvé le soir, après les champs de bataille, assis dans un bar à prendre un verre avec des participants, je pense qu'on était au moins une quinzaine, ça m'a fait énormément de bien, puis ça m'a ramené à ce plaisir-là que j'ai à aller vers l'autre, en fait. Bon, on va juste préciser que c'était en février, avant le confinement, il y avait de la neige, donc on n'était pas encore dans la paranoïa actuelle.
Non, on dit 15, puis on a froid dans le dos. Qui a été la personne qui t'a amené où tu es aujourd'hui? Qui a été l'initiateur d'étincelle qui a allumé là, cette espèce de feu-là? T'étais jeune, puis t'es parti, puis t'avais ça. Tu sais, moi, j'ai toujours me souvenir de... Le dandy Pierre Lapointe avec sa superbe, un peu méprisant, puis que, décalé, ce personnage-là que le monde est tout de suite ont allumé. Là. Qui a initié ça chez toi? Comment c'est arrivé?
C'est plein de choses. C'était un désir déjà de créer. Moi, j'étais en art visuel à l'UQAM. Avant ça, j'étais en théâtre à Saint-Hyacinthe, en interprétation. Fait que moi, dans ma tête, je faisais des arts visuels, je faisais du théâtre. Je voulais être metteur en scène, je voulais être directeur artistique. Je voulais pas être... chanteur.
Non!
Non. Puis là, je jouais de la musique depuis tout le temps. Fait que là, je me suis mis à écrire des chansons. Puis je trouvais ça plate. Fait que je me suis créé un personnage. Puis je suis arrivé sur scène avec tout un environnement.
Oui.
Puis ça, ben, c'est du monde comme... c'est aussi vaste que Yvon Deschamps, que Robert Lepage, que Bob Wilson, que Michel Tremblay, que Régent Ducharme. C'est un mélange de tout ça. C'est les dadas... début du siècle passé, c'est les automatistes ici, c'est tout ça en fait qui m'a donné envie de faire. Dans ma tête, je faisais pas de la chanson.
Un soir, on est dans une loge ici à La Voix, puis on se met à parler d'inspiration puis de chansons en buvant un verre. Puis moi, j'adore ça parce que c'est un monde que je connais pas. Puis ce que j'aime, Pierre fait du théâtre, donc j'ai comme un lien avec lui. Puis à un moment donné, tu t'es mis à nous parler, on était avec Marc, puis là, tu t'es mis à nous parler d'inspiration de chansons de propagande. Puis on a dit, ouais, ça vient de où, ça? T'as fait, ah non, ça vient de des chansons où, je sais pas trop...
Justement, dans mon idée de... Je voulais pas faire de chansons. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu tout. Donc, j'ai eu une passe où j'ai regardé beaucoup de documentaires sur l'ex-URSS, ouais. En fait, puis sur les moyens de propagande. Je suis fan de pub depuis toujours. Donc, quand j'ai commencé à faire de la chanson, puis quand je me suis mis en scène, c'était ça. Deux par deux rassemblés, c'est un chant communiste. Dans ma tête, je l'ai écrit comme un chant communiste des années 50. Puis, ben, au lieu de vendre un parti politique, j'ai vendu l'idée d'être deux et heureux.
Ouais.
Puis, ben, j'ai écrit la mélodie comme un chant patriotique. Puis, je me rappelle d'un des documentaires que j'ai vus où il y avait une jeune fille d'à peu près 6 ans qui chantait comme jamais j'ai vu quelqu'un chanter de cet âge-là et qui chantait les yeux pleins d'eau, la grandeur de la patrie. J'ai trouvé ça extrêmement effrayant et extrêmement magnifique en même temps. Puis ben c'est ce genre de chant patriotique là qui m'intéresse, mais c'est tout en fait. Il y a beaucoup de designers aussi ou de metteurs en scène qui m'inspirent. Puis je vais les écouter parler beaucoup, je vais regarder des documentaires, je vais lire sur eux, puis je vais essayer de transposer ça après en chanson. Ce qui fait que même si ma forme d'expression est très, très conventionnel. Puis, tu sais, ça reste des chansons, couplets, refrains. Tu sais, je fais pas de la musique actuelle en cassant des vitres à terre, en criant.
Ouais.
Ça reste très concret et très accessible, ce que je fais.
Tu viens d'écrire Yoko Ono.
Oui, parce que j'aurais pu faire de la musique comme ça. J'aurais pu faire de la musique expérimentale, puis pousser, puis juste faire des bruits, puis faire de la recherche. Mais c'est pas ça que je fais. J'ai quand même un médium pop. Puis, même si la forme est populaire, tout le discours et toute la recherche en dessous est complètement décalé par rapport à ce qu'on voit normalement en chanson.
Ça, c'est très théâtre. Tu sais, c'est très. Ouais. Quand tu as parlé de Robert Lepage, il y a beaucoup de ça. Tu sais, les 7 branches de la rivière Otta ou la guerre nucléaire. Ouais. Tu sais, puis partir sur un thème, après ça, recréer une histoire avec s'inspirer de ça.
Il y a à peu près 10 années, moi, j'ai croisé Robert, puis j'ai dit j'aimerais ça aller le voir travailler, puis j'ai passé plusieurs jours à regarder Robert travailler avec toute son équipe à la caserne à Québec. Et puis, j'ai toujours dit que Robert faisait du cinéma comme on fait du théâtre, puis fait du théâtre comme on fait du cinéma. Ouais. Puis je trouve ça super intéressant comme regard. Puis à l'époque, il y a 10 années, je me rappelle que moi, je me suis dit, c'est drôle, je fais de la chanson comme on fait de l'art contemporain.
Ouais.
ça reste du théâtre que Robert fait, puis ça reste du cinéma quand il fait du cinéma.
Ouais.
Puis moi, ça reste de la chanson, mais toute la recherche en arrière, c'est quelque chose de très, très hybride. Puis ça, ben, je l'ai pas vu si souvent en chanson, mais je l'ai vu beaucoup en théâtre, en cinéma, en art visuel. Puis ma façon de travailler s'est calquée sur ces gens-là.
Ouais.
Donc, ce qui a été l'élément de départ pour ma volonté de chanter, c'est un désir d'écrire, de m'exprimer, puis de créer un univers. Puis même mon premier disque, j'arrêtais pas de dire au réalisateur Jean Mascotte, avec qui j'ai travaillé, qui a aussi arrangé, je disais, je veux que dès la première note de la première chanson, les gens soient déjà ailleurs, juste en écoutant ça. Puis c'est ce que j'ai continué à essayer de faire toute ma carrière, puis que je fais encore aujourd'hui.
Change de sujet. Parlons dans le dos de Béatrice Cœur de Pirate. Béa a dit ouvertement que tu fais partie de ses héros. T'sais, je ne veux pas te mettre la pression d'être son héros,
ouais, non,
mais elle t'en a parlé. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois ça? Ça te donne-tu un coup de vieux ou c'est un beau compliment?
Ben non, c'est un super compliment. Moi, j'ai été propulsé par le travail de 1000 personnes. Il y a des gens qui m'ont marqué profondément. Puis j'ai toujours travaillé en pensant à ces gens-là. Dans ma première pochette de disque, je remercie Serge et Barbara. C'est Serge Gainsbourg et Barbara. Mmh. Je les ai jamais rencontrés. Ils sont morts avant que je commence à faire de la chanson. Mais ils ont été extrêmement importants pour moi. Maintenant, c'est hyper touchant de voir que, sans s'en rendre compte, on prend une place équivalente ou on prend une place importante, en tout cas dans l'imaginaire personnel d'un autre créateur. Puis on est tous des éponges, surtout quand on est artiste. Fait que moi, ça m'émeut beaucoup, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup quand c'est le public. Tu sais, des gens, des fois, qui t'arrêtent dans la rue, qui voient une vedette, puis qui sont contents, puis ça fait plaisir. Mais il y a des fois des gens qui te regardent, puis qui te disent « Cette chanson-là m'a aidé. »
Ça leur appartient.
Ça, oui.
C'est hors de toi, tu l'as donné.
Ça devient genre « OK, ben ça, c'est important.
Ouais, » ouais, ouais.
Quand c'est ressenti par un artiste qui fait le même métier que nous, ça prend une valeur encore plus grande. En tout cas, moi, j'ai l'impression de passer... c'est comme si j'avais bénéficié du travail de personnes qui sont arrivées avant moi, puis que ce bienfait-là qu'ils m'ont donné, je le passe à d'autres gens. Puis c'est la beauté de l'évolution et de la chaîne de la vie, pour citer Elton John.
Tu l'as déjà gagné, la voix.
C'est pas moi qui l'a gagné, c'est Stéphanie.
Le coach.
Ça, j'aime toujours ça préciser parce que c'est elle qui a fait le travail, puis moi, je l'ai accompagné.
Ouais. Puis c'était une surprise, c'est quand on parle du comeback, c'est Stéphanie, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Elle est passée par les champs de bataille, puis finalement, à la fin, elle a gagné, je me souviens d'un numéro avec une chorale gospel qui était hallucinante, qui était très, très, très différent de toi, de ce que toi tu fais. Tu sais, tu mettais en scène quelque chose.
Pour quelqu'un d'autre,
tu sais.
Pour Stéphanie.
Ouais.
Puis c'était à sa mesure, à sa démesure, j'ai envie de dire, parce que sa voix était démesurément puissante, beaucoup plus que ce que moi je suis capable de faire. Donc, ouais.
Est-ce que c'est important pour toi de te rendre jusqu'au bout, de réussir à amener, tu sais, la personne qui a le plus de talent, mais pas juste dans la voix, le plus de choses à donner peut-être, cette responsabilité-là de l'amener jusqu'au bout qu'elle puisse se déployer? Tu sais, je pense à Dominique Fils-Aimé, là, qu'on a vu cette année, là, qui a complètement, qui est devenue une artiste, tu sais, majeure.
Normalement talentueuse.
Ouais, ouais, exactement, tu sais.
Ben, c'est une histoire de rencontre, puis je suis pas capable de m'attribuer une responsabilité. Dans ma tête, la personne, elle est là où elle est rendue. Puis moi, je fais peut-être juste mettre la petite étincelle pour que ça explose. Mais ça reste... Je crois beaucoup au rythme des choses. Puis au... Je veux pas dire destin, parce que c'est comme si tout était dessiné.
Ouais.
Mais, puis quand il y a quelque chose qui se passe de beau, il y a souvent beaucoup de travail derrière. Fait que pour moi, la destinée, c'est de dire je fais rien, je me laisse porter. Puis c'est pas ça. Je suis plus dans l'action. Mais je crois vraiment que les gens vont là où ils sont rendus par rapport à leur capacité, par rapport à là où ils sont rendus dans leur quête. Pour moi, la vie, c'est une quête. Quand on est artiste, on a une quête, c'est d'essayer d'exprimer des idées toujours plus belles, de toucher de plus en plus de gens. Donc, moi, je me vois plus comme un accompagnateur qui va tout mettre en place pour que la personne puisse exploser, mais c'est la personne qui fait le travail. On peut pas dicter aux gens quoi faire. On peut pas... Si ça marche parce que quelqu'un nous a poussé vraiment beaucoup, ça va retomber après. Parce que la personne sera pas prête à prendre tous les éléments puis à jouer avec vraiment. Donc, c'est pour ça que je me vois vraiment comme un accompagnateur. Puis, je responsabilise beaucoup les participants. Il y en a, ils ont de la difficulté à placer leur souffle. Moi, je le dis, je le nomme, je leur donne des trucs. Après ça, je dis, faut que tu ailles chez toi puis que tu travailles de ton côté.
Ouais.
Parce que je vais te dire où respirer puis tu vas finir par focusser sur, ah, il m'a dit qu'il fallait que je respire là, il m'a dit qu'il fallait que je travaille ma voix à telle place. Puis, pour moi, ça, c'est mettre le focus à la mauvaise place.
Ouais.
Je suis très...
En fait, c'est juste le symptôme, c'est pas la source.
C'est ça, exactement. Trouve ta réponse... Cherche de la bonne manière, trouve ton chemin pour trouver ta réponse, puis après ça, tu n'auras même plus besoin d'y penser, tu vas avoir réglé le problème. Tout est intéressant à partir du moment où on se place dans le bon angle.
Ouais.
Faire de la télé, il n'y a pas de stage en télé quand tu es chanteur. Si tu as un succès, là, tu te fais balancer dans le milieu de la télé, puis là, il faut que tu apprennes par petites bribes une fois de temps en temps. Quand tu viens ici, t'es dans un concentré d'apprentissage télévisuel. Et sans la télé, notre métier ne peut pas exister. Mm. Il y a quelques phénomènes très rares, là, des Desjardins, mais qui sont déjà d'une génération un peu plus avancée. Tu peux pas vivre sans la télé, tu peux pas vivre sans le web, tu peux pas vivre dans ce métier-là si tu t'apprends pas à t'exprimer devant une caméra.
Mm.
Donc, je le vois, moi, du début jusqu'à même là, les participants de cette année, il y a toute une aisance face à la caméra que moi, j'avais pas. Quand j'étais
mais là, là où ils sont. Elle est dans notre poche tout le temps. On
c'est
l'a.
Ça.
On l'a. Parlons de mise en scène un petit peu.
Oui.
T'adores, t'es dans les coachs qui aiment le plus faire de la mise en scène, puis tes numéros sont généralement très beaux, puis originaux, puis visuellement le fun, parce que je veux aller là-dedans, justement, ton rapport à la caméra, pour faire quelque chose pour la télé. Je me souviens d'un numéro que vous aviez fait, là, la caméra faisait un 360.
Ouais.
je mime, on est dans un balado, puis je tourne ma main en cercle, c'est ridicule.
Tu as volé l'orange de Beko.
Ouais. Ça, c'est... Raconte-moi un peu, parle-moi de ça, cette importance-là.
J'en ferai plus. Ben déjà, j'ai fait les mises en scène de mes shows. J'ai fait une mise en scène pour les Cirque du Soleil, Feu Cirque du Soleil, l'été dernier à Monaco. Puis je commence à en faire de plus en plus avec d'autres artistes. Moi, je voulais être metteur en scène avant d'être chanteur. Là. Moi, mettre en place une chanson, je trouve ça le fun. Organiser une histoire sur un tréteau, moi, c'est ce que je préfère. Puis, à la voix, c'est le fun parce qu'on a des moyens. On n'a pas toujours le temps.
Mmh.
Fait qu'il faut avoir des flashs bons, rapides, qui se réalisent vite. Là, avec la COVID, on s'entend, c'est encore plus compliqué.
Ouais.
Mais il y a quand même ce désir de pas juste chanter, d'arriver avec un univers autour. Puis ça, c'est pour ça que je fais les pochettes que je fais, c'est pour ça que je fais les clips que je fais, puis c'est pour ça que je fais les présentations que je fais avec les participants. C'est parce que dans ma tête, il y a le petit plus que ça amène au récit, ça peut donner beaucoup, en fait.
Mais ça donne une couleur aussi. Ça donne, t'sais, on est dans l'équipe de Pierre Lapointe, puis c'est pas...
Complètement. C'est, mais tu sais, chaque... T'sais, Béatrice ou Garou, dans sa présence, c'est un metteur en scène aussi. Puis Marc, il a des idées très fortes aussi. Tu sais, je pense que quand on est sur scène, souvent, on a ce sens-là qui vient avec.
Mais les quatre de cette année, vous avez ça, cette idée de producteur au contenu, de producteur...
De
faire des spectacles, de gang, de... T'sais.
Parce que chanter, c'est une affaire, mais... Donner un show, c'est une autre affaire. Puis je pense que dans les quatre cas, on est...
C'est quoi la différence pour toi?
Ben chanter, c'est chanter. Donner un show, c'est en donner plus que ce que le client demande, puis s'assurer de créer la surprise. Puis le médium de la chanson se prête hyper bien à ça. Parce que c'est des petits récits, donc tu peux, dans un spectacle télé comme La Voix, tu peux présenter 10 petits univers différents en l'espace d'une heure, ce qui est super.
Moi, c'est certain que c'est notre dernier tour de piste. Là. La voix va prendre une pause.
Ouais.
Star Academy va s'en trouver là. Puis j'ai ce défi-là de me dire... puis je leur souhaite tout le succès possible. Tu sais, mais moi, j'ai un petit moteur là, présentement de dire, on va vous mettre la barre là. Puis, essayez donc, vous autres après. Tu sais.
Puis on veut tous se mettre ça le fun. Je connais personne qui n'est pas content de venir travailler en ce moment.
Oui, exact.
Fait que je pense que ça va se sentir aussi dans le rendu... de La Voix, de la dernière section, de la dernière édition de La Voix, pour un petit bout, en tout cas.
Je souris en sous mon masque. Merci, Pierre.
Hey, merci à toi.
Merci.
Toujours un plaisir.
Alors, c'est tout pour ce balado de La Voix. Et si vous entendez des violons derrière moi, C'est les violonistes de la voix qui sont en train de répéter en coulisses. Et on approche à grands pas de la finale de la saison. Alors, dans le prochain balado, il risque d'y avoir beaucoup d'émotions dans l'air. Avec tout ce qu'on a parlé, les mises en scène, la pression, amener ces candidats-là à trouver des solutions par eux-mêmes, bien, vous allez voir ça devant vous. Puis en plus, vous avez une incidence. Parce que c'est vous qui allez décider de voter et c'est vous qui avez votre préféré. Donc, c'est une invitation à venir nous voir pour les directs de La Voix à TVA les dimanches à 19h. Salut!